pas vous présenter, vous faire une présentation académique avec des statistiques ou des analyses scientifiques ou sociologiques sur ce centenaire, mais je vais plutôt vous raconter comment j'ai vécu ce centenaire, ces 5 années et ces différents articles, et comment j'ai perçu la mémoire à travers ce centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc, en 5 ans, j'ai eu la chance de rencontrer des centaines de personnes, des historiens bien sûr, mais aussi des passionnés, des spécialistes amateurs et beaucoup de descendants de soldats comme la plupart d'entre vous. Et c'est surtout un conflit qui m'a amené à me rendre bien sûr sur la ligne de front de la Première Guerre mondiale, la ligne française, mais aussi dans de nombreux pays en lien avec la Première Guerre mondiale. Comme on peut le voir sur cette carte, en fait, sur cette carte, j'ai répertorié la plupart des articles que j'ai faits. Et on voit bien que c'est un conflit qui a touché l'ensemble du globe, hein, pas tous les pays, mais qui a touché une grande partie du globe. Donc c'est aussi l'un des intérêts de ce conflit, c'est qu'on peut parler de plein de pays différents. Et ce qui a été déterminant pour moi au cours de ce travail, et je vais beaucoup en parler, c'est la force des réseaux sociaux. Donc tout au long de ce centenaire de 14-18, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour parler du centenaire, et notamment, ça c'est mon compte Twitter qu'on voit derrière. Donc tous les jours, j'ai fait une veille sur Facebook, sur Twitter, pour relayer les articles qui étaient produits sur le centenaire, pour communiquer avec les gens, et j'aurai l'occasion de reparler de ce sujet. Donc ça m'a permis de constater en 5 ans qu'il y avait des mémoires très différentes sur le centenaire de 14-18. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler avec ce plan. On va partir de la mémoire internationale, je vais vous présenter différents pays. Après on va parler plus spécifiquement de la mémoire française, qui vous concerne, je pense pour la plupart. Et après je vais vous parler de ma mémoire, je vais prendre l'exemple de ma famille et de voir comment cette mémoire s'est perpétuée, cette mémoire de la Première Guerre mondiale. Alors, je vais vous parler d'abord de la mémoire qui, sur le terrain, peut paraître la plus présente, en fait, la plus visible. C'est la mémoire anglo-saxonne, qui, moi, m'a le plus impressionnée au cours de ce centenaire, finalement. Donc, quand la guerre éclate, on va faire un petit retour en arrière. Tous les pays du Commonwealth sont appelés à défendre la Grande-Bretagne. Donc, il y a des soldats qui viennent du Canada, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, de Grande-Bretagne, bien sûr, encore d'Inde. Ce sont des millions d'hommes qui sont mobilisés et rien que pour le Royaume-Uni, on estime les pertes à 700 000 morts et disparus. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et partout sur le champ de bataille, quand vous vous rendez sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, on peut voir ces petits coquelicots. Hein, je suis sûre que vous les avez déjà vus. Ils sont aussi en vente à la boutique du mémorial. Les Anglais les appellent des poppies. Et aussi ces petites croix, en fait. Souvent, les Britanniques mettent sur les champs de bataille, sur les tombes, sur les monuments, ces petites croix en bois en souvenir des soldats. Et c'est aussi un symbole qu'ils portent souvent au mois de novembre. Au mois de novembre, la plupart des Britanniques le portent sur leur veste, ce petit coquelicot. Donc ça, c'est une série de photos que j'ai prises dans plusieurs pays, en fait. Quand je suis allée visiter les champs de bataille, j'en ai vu que ce soit particulièrement dans la Somme, où les Britanniques se sont particulièrement battus en France, mais aussi, j'en ai vu aussi dans les Dardanelles, en Turquie, j'en ai vu aussi à Jérusalem ou en Italie, où je suis allée plus récemment. Et c'est souvent des témoignages très touchants. Là, on peut voir sur l'un de ces petites croix en bois, souvent les Britanniques, ils mettent le nom du soldat en mémoire du soldat. C'est la famille qui va déposer à l'endroit où le soldat est mort. Ils mettent souvent aussi une petite photo, comme ça on peut personnaliser ce soldat. Et en plus, ce côté rouge, ce côté un peu sang, rajoute à l'émotion de ces petits témoignages et personnels. Et j'ai été vraiment frappée de voir que chez les anglo-saxons, cette mémoire était restée vraiment très forte. Tous les jours, j'ai vu beaucoup d'articles sur les médias britanniques qui parlaient de ce centenaire. Et aussi sur les réseaux sociaux, ils avaient des comptes très actifs avec beaucoup de personnes qui réagissaient tout de suite, qui partageaient beaucoup de données. Et ce qui était aussi très étonnant, c'est de voir qu'à des milliers de kilomètres de la France, cette mémoire est restée très vive. Donc j'ai eu l'occasion de faire, à plusieurs reprises, de faire des papiers sur des anglo-saxons, des britanniques, qui faisaient des recherches sur leur famille et qui voulaient rendre hommage à l'un de leurs ancêtres. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement fort, par exemple, chez les Néo-Zélandais et chez les Australiens. Alors derrière, ce que je vous montre, c'est la photo d'un article qui est consacré à une femme qui s'appelle Brenda Chambers. Donc j'ai écrit cet article en 2014. Et donc c'est une Australienne qui a quand même passé 10 ans de sa vie à essayer de retrouver la tombe de son grand-oncle, qu'on voit sur cette photo, qui s'appelait Henry Foster Midley. qui a été tué au cours de la Première Guerre mondiale. Donc pendant des décennies, sa famille croyait que cet homme a été enterré dans la Somme, il ne savait pas où exactement. Et elle, en faisant des recherches, cette Australienne, elle a découvert que finalement il était enterré dans le département du Nord. Et 100 ans après, elle a été la première de sa famille à se rendre sur la tombe de ce grand-oncle. Et elle a fait tout ce voyage depuis l'Australie, en fait. C'est pas une démarche isolée, hein. J'ai rencontré des dizaines de cas comme ça. Là, on voit cette autre famille australienne. Ça, c'est un article qui date de cette année. C'est une famille qui est aussi venue rendre hommage à un grand-oncle qui s'appelait Frank Curtis. Donc, ils sont venus à la date anniversaire, 100 ans après, à la date anniversaire de ce soldat qui est tombé dans la Somme. Donc, pour lui, il n'y avait pas de tombe qui était connue, mais ils ont quand même fait le déplacement. Là, on les voit avec leur drapeau australien et leur drapeau français. Et c'était très émouvant parce qu'ils nous ont raconté qu'ils sont venus déposer des petits morceaux de violon parce que ce grand-oncle était musicien. Donc ils ont ramené des bouts de son violon d'Australie et ils les ont enterrés dans le village où il est tombé, 100 ans après. Il y a un jour spécialement, je me suis vraiment rendu compte de la ferveur chez ces Australiens. C'est lors de l'Anzac Day. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'Anzac Day. C'est tous les 25 avril. C'est une journée de mémoire chez les Australiens et les Néo-Zélandais. Alors, Anzac, ça vient du terme Australia and New Zealand Army Corps. Donc, c'est le nom des forces armées australiennes et néo-zélandaises qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale. Donc, lors de cette journée, les Australiens et les Néo-Zélandais, c'est un jour férié, ils rendent hommage aux soldats qui sont morts durant ce conflit. Donc, rien que pour l'Australie, il faut savoir que c'est 60 000 Australiens qui ont perdu la vie, alors que le pays, à l'époque, ne comptait que 5 millions d'habitants. Donc, c'est quand même colossal au niveau de ce pays-là. Cette cérémonie a lieu le 25 avril parce que c'est la date anniversaire de combats qui ont lieu le 25 avril 1918 à Villers-Bretonneux dans la Somme, mais aussi le 25 avril 1915 à Gallipoli dans les Dardanelles. Donc c'est une date importante pour les Australiens puisque c'est leur premier engagement le 25 avril 1915 en tant qu'Australiens. C'est vraiment fondateur pour leur nation. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que... Donc là, c'est des photos qui ont été prises le 25 avril 1915, donc 100 ans après ces combats. Donc là, il est 5h du matin à Villers-Bretonneux, donc c'est au fin fond de la Somme, dans la campagne. Il y avait des trompes d'eau, donc on voit tous les gens avec leurs ponchos. Et là, il y a 5000 Australiens qui sont là, qui ont fait le déplacement depuis l'Australie. Ils ont bouclé leur voyage depuis des mois. C'est retransmis en direct à la télé australienne. Et donc, on sent vraiment une ferveur, même 100 ans après. Et il y avait de très nombreux jeunes. J'étais étonnée aussi qu'il y avait les médailles de leurs arrière-grands-parents, grands-parents. Et tout le monde était rassemblé à 5h du matin. Donc, à 5h du matin, parce que c'est le début de l'offensive. Et donc, ils tiennent à cet horaire-là. J'ai aussi pu constater cette ferveur par rapport à mes collègues, en fait. Donc, comme je vous le disais, à France 24, on est en plusieurs langues. Et donc, j'ai pas mal de collègues qui sont britanniques. Et donc j'avais remarqué aussi qu'eux portaient le coquelicot au mois de novembre, alors que les Français ont depuis longtemps oublié de porter le bleuet, et eux continuent de perpétuer cette tradition. Et un de mes collègues britanniques, qui s'appelle Tony Todd, on lui avait demandé justement de nous faire un article pour nous expliquer à nous, Français, pourquoi ils portaient ce coquelicot tous les ans. Et donc il nous avait dit que c'était en souvenir de son grand-oncle, qu'on voit sur cette photo, qui s'appelle Albert Charles Todd. Et donc, il nous avait expliqué pourquoi il portait ce coquelicot, je le cite. Il dit qu'il ne s'agit pas de célébrer de façon cocardière les exploits guerriers du Royaume-Uni. Il ne s'agit pas non plus d'un symbole de fierté nationale ou familiale. C'est simplement pour moi une façon de rappeler que le coût humain de la guerre va bien au-delà du champ de bataille. Il se mesure également à l'aune du lourd et douloureux fardeau porté par les familles des soldats morts au front, mais aussi par les proches de ceux qui en sont revenus psychologiquement dévastés parce qu'ils y ont vécu. Les blessures disparaissent et les peines s'estompent avec le temps, mais les conséquences brutales, destructrices et durables de la guerre ne doivent jamais être oubliées. Donc en 2016, pour le centenaire de la bataille de la Somme, j'ai eu une idée, parce que je me suis dit, il y avait quand même une grande ferveur chez mes collègues britanniques, je vais leur demander de participer. Et je leur ai demandé d'aller plus loin et de raconter leurs histoires de famille. L'histoire de leurs ancêtres durant la guerre. Et donc, on a réalisé un web documentaire. En fait, c'est un article amélioré où j'ai demandé à chacun de mes collègues, dont je savais qu'ils avaient des ancêtres qui avaient participé au combat, de me faire un petit texte. Et on a pris des photos avec un souvenir qu'ils avaient de ce soldat de leur famille. Et j'ai été vraiment frappée de voir que leur histoire s'était transmise de génération en génération, même des gens de mon âge d'une trentaine d'années. qui connaissaient bien l'histoire de leurs ancêtres, alors que moi, de mon côté, j'ai vraiment dû faire beaucoup de recherches pour savoir ce qui s'était passé dans ma famille, mais ça, on y reviendra plus tard. Et j'ai surtout été touchée par l'histoire de ma collègue Annette Yang, qui est donc une présentatrice d'origine anglaise et australienne pour France 24. Et elle a livré vraiment un témoignage très émouvant sur son grand-père, c'est John Young qu'on voit sur cette photo. Donc c'est un Anglais qui s'est retrouvé plongé dans la bataille de la Somme. Il a réchappé au conflit, mais ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'il s'est suicidé quand il avait une soixantaine d'années. Et sûrement, c'était ça découlait de ce qu'il avait vécu pendant la guerre, des conséquences aussi de ce traumatisme. Et donc Annette a écrit dans ce texte, elle a écrit que cela prouve encore une fois combien les horreurs de la guerre se transmettent d'une génération à l'autre, bien des années après qu'une dernière balle de fusil ou un dernier obus de tank a été tiré. Alors bon, ça c'est particulièrement lourd comme histoire, mais aussi le centenaire, ça m'a permis de faire de belles rencontres, et des rencontres assez improbables avec souvent les Britanniques. Donc ça c'est une photo qui a été prise en septembre 2015, je suis allée dans l'Artois, dans une ville qui s'appelle Angres, c'est près de la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette, pour les 100 ans de la mort de mon arrière-grand-oncle, Joseph Trouillard. Donc au premier plan c'est mon père. À côté, c'est un monsieur de la mairie d'Angres qui nous avait, en fait, on a eu la surprise que la mairie, on les avait contactés en disant qu'on faisait des recherches sur mon arrière-grand-oncle, et ils nous ont préparé une cérémonie spécialement sur les lieux de son décès, parce qu'il n'y a pas de tombe connue. Et ce jour-là, il y avait des Anglais qui passaient par là et qui se sont joints à la cérémonie. C'est assez naturel chez les Anglais. Et donc ils nous ont donné cette petite croix en bois avec ce petit coquelicot qu'on a placé à côté de la photo de mon arrière-grand-oncle dans ce bois où il a été tué ce jour-là. Donc ça a été aussi un rassemblement, et c'est ce qu'est le centenaire aussi, c'est partager cette mémoire, parce que les Anglais se sont battus là, on s'est battus côte à côte, donc on était rassemblés ce jour-là. À partir de l'année dernière, il y a une nouvelle mémoire qui est aussi rentrée en compte, c'est la mémoire américaine, hein, parce que c'était les 100 ans de l'arrivée des Américains dans le conflit. Donc ils ont pris un petit peu le train en marche dans ce centenaire. Chez les Américains, c'est quand même une mémoire qui est beaucoup moins présente par rapport à la Seconde Guerre mondiale, qui est un peu tout éclipsée. Mais on a pu constater quand même que c'est l'année dernière et cette année, il y a eu quand même eu des rassemblements qui ont donné lieu à des hommages émouvants pour les soldats américains. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises au Bois Belot, dans l'Aisne. C'était le centenaire de combats qui ont eu lieu en mai de cette année. Donc il y avait énormément de monde, comme on peut le voir sur ces photos, et beaucoup de militaires, d'anciens militaires, d'anciens Marines, parce que c'était des Marines qui avaient participé pour beaucoup à ces combats. Donc chez les Américains, la mémoire se transmet aussi beaucoup dans l'armée. On sent une tradition militaire très forte. Cette mémoire se transmet de génération en génération chez les militaires. Pour eux, c'est important de faire perdurer cette mémoire. Alors une autre mémoire, c'est bien entendu la mémoire allemande dans ce conflit. Alors c'est vrai que depuis le début du centenaire, j'ai vu un peu moins de présence allemande sur les réseaux sociaux, dans les articles, dans les manifestations. Ça s'explique aussi du fait que c'est une mémoire plus sensible pour les Allemands, parce que la Première Guerre mondiale, ça représente une défaite. Et puis bien sûr, il y a la Seconde Guerre mondiale qui est passée par là, donc on parle beaucoup moins de la Première Guerre mondiale. Et quand j'ai rencontré des Allemands, très peu savaient finalement l'histoire de leur grand-père ou arrière-grand-père, comment ils avaient combattu lors de la Première Guerre mondiale. Sur le terrain, on rencontre quand même beaucoup dans le nord de la France des touristes allemands qui vont aussi sur les champs de bataille pour visiter les lieux de mémoire. Mais par exemple, cette photo a été prise dans le cimetière de Vladslo, c'est près de Dixmude en Belgique. Donc c'est un cimetière qui est connu pour ses deux statues de la sculptrice allemande Käthe Kollwitz, qui a elle-même perdu son fils durant la Première Guerre mondiale. Ça représente deux parents éprouvés par le deuil, ce sont des statues très fortes. Et on peut voir que même dans ce cimetière allemand, finalement, c'est des petits coquelicots britanniques qui ont été posés, que même les Britanniques sont vraiment toujours très présents sur le terrain. Alors au mois d'août, il y a quelques semaines, j'étais à Verdun pour un rassemblement de reconstitueurs. Alors les reconstitueurs, ce sont des personnes qui recréent des uniformes de telle ou telle période et qui se rassemblent pour montrer aux gens comment étaient habillés les soldats au cours des conflits, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est un Allemand qui porte un uniforme de la Première Guerre mondiale. Et donc lui m'a expliqué qu'en Allemagne, c'était pas forcément bien vu voilà, de s'intéresser à cette période et surtout de porter un uniforme. En fait, ça renvoie surtout pour beaucoup à la Seconde Guerre mondiale. Donc les gens comprennent pas pourquoi, voilà, c'est quoi cette passion de vouloir porter un uniforme, et ça ravive des souvenirs plutôt liés à la Seconde Guerre mondiale. Mais lui m'a dit que c'était quand même important et que c'était surtout une démarche de fraternité, et pas du tout une nostalgie de cette période, et que c'était que montrer que 100 ans après, on pouvait se rassembler tous ensemble et partager cette mémoire. Et justement, ce qui a été intéressant au cours de ce centenaire, c'est de voir combien les autorités ont essayé de faire de créer une mémoire partagée. Donc ça, c'est une photo un peu lointaine que j'ai prise. On voit Angela Merkel et François Hollande lors de la cérémonie du 29 mai 2016 pour les 100 ans de la bataille de Verdun. Donc cette photo, maintenant, elle paraît banale, mais c'est vrai qu'en 84, quand on voyait Mitterrand et Kohl se tenir la main, c'était quand même un événement, ça avait marqué les esprits. Maintenant qu'on fasse des cérémonies avec les chefs d'État des deux pays, ça, c'est tout à fait banal. Et pour la petite anecdote, ce jour-là, donc, j'ai assisté à la cérémonie, et pendant plusieurs semaines, j'avais travaillé sur le centenaire de la bataille de Verdun, et j'avais notamment fait des recherches sur un de mes arrière-grands-pères bretons, qui était artilleur et qui avait participé à la bataille de Verdun. J'avais reconstitué son parcours, là aussi, parce que je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait. Et donc, j'étais dans la salle de presse de cette cérémonie. Puis, à côté de moi, sont venus s'installer des journalistes allemands. Et c'est vrai que je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, 100 ans après, voilà, moi, la petite fille de poilu, je suis assise à côté de ces journalistes allemands et on travaille tous ensemble 100 ans après. Alors cette mémoire partagée se retrouve aussi dans les nouveaux musées ou mémoriaux qui ont été... Il y a eu beaucoup de musées qui ont été créés à l'occasion du centenaire ou de mémoriaux qui ont été rénovés. Et on a vu une nouvelle façon aussi de raconter l'histoire dans ces musées, de raconter cette mémoire, de partager cette mémoire. Donc ça, c'est une photo du mémorial du Hartmannswillerkopf qui a été inauguré en novembre dernier, là aussi par le président allemand et par le président français Emmanuel Macron. Et donc, on voit bien, là, on a un uniforme allemand à côté d'un uniforme français. Donc ça, c'est les musées nouvelle génération aussi. Les anciens musées, on allait voir le point de vue des poilus. Maintenant, on partage vraiment la mémoire. On va voir, là, vous voyez, c'est écrit en français et en allemand. On va voir des documents à la fois de poilus français et à la fois de soldats allemands. C'est raconter les souffrances qu'ont vécu les soldats des deux côtés. Alors, le conflit n'a... bien entendu, pas concerner que les pays européens. On a tendance un petit peu des fois à l'oublier. Et à France 24, on est, donc comme je vous le disais, c'est une chaîne internationale et on est pour beaucoup regardé à l'étranger, et notamment en Afrique. On a beaucoup de téléspectateurs et de lecteurs. Et au début du centenaire, quand je faisais des articles sur 14-18, souvent dans les commentaires, donc c'était souvent des Africains qui commentaient, disaient « Mais vous ne parlez pas assez de notre histoire ». Quand c'est que vous allez parler des tirailleurs africains, des tirailleurs sénégalais, voilà, on veut qu'on parle aussi de notre histoire. Donc j'ai essayé tout au long du centenaire aussi de raconter l'histoire de ces soldats, l'histoire de ce qui s'est passé aussi en Afrique, qui était aussi terre de combat. Donc ça a vraiment été important. Et pour la petite anecdote, j'avais été aussi dans un lycée à Sotteville-lès-Rouen il y a quelques années pour parler avec les élèves du centenaire. Et il y avait une élève qui m'avait fait cette réflexion, une élève qui était d'origine africaine. Et elle m'avait dit, au début, moi, je pensais que la Première Guerre mondiale, ça me concernait pas. Et en fait, avec le lycée juste à côté de Sotteville, à Sotteville, il y a un cimetière militaire français. Et donc, la professeure a demandé à chaque élève d'aller sur une tombe et de reconstituer le parcours de soldats. Et elle a vu qu'il y avait des soldats qui avaient des noms africains, des noms arabes. Et là, elle a réalisé que c'était une histoire qui la concernait aussi. Et ça m'a marqué aussi. Je me suis dit, c'est qu'il y a quand même un problème si ces jeunes sentent que c'est pas leur mémoire, alors que ça les concerne également. Donc, j'ai voulu un peu plus axer là-dessus. Donc j'ai fait des articles sur l'histoire des soldats des anciennes colonies. Ce sont des articles qui à chaque fois ont très bien marché. Donc, par exemple, ça c'est un article sur les régiments maghrébins qui ont été parmi les plus décorés de la Première Guerre mondiale. J'ai aussi raconté l'histoire pas seulement donc avec des articles, mais avec les web documentaires, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc ça c'est un reportage interactif que j'ai fait sur le jardin tropical de Paris. Alors, le jardin tropical de Paris, c'est l'ancien jardin d'agronomie tropicale qui était situé près du bois de Vincennes, à Nogent. Et au début de la guerre, en fait, le directeur du jardin tropical a décidé de transformer ce jardin, il y avait de nombreux bâtiments, en hôpital militaire. Et ce sont surtout des soldats des colonies qui ont été soignés dans ces bâtiments. On peut voir sur ces photos, donc c'était des soldats qui étaient originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Indochine, des Malgaches. Et donc au total, il y a quand même près de 5000 soldats des colonies qui ont été soignés dans cet endroit. Et pourtant, très peu de personnes connaissent ce lieu. Moi, je suis tombée sur quelques lignes dans un livre et avant, j'en avais jamais entendu parler en fait de cet endroit. Plus récemment, donc cette année, j'ai sorti ce web documentaire aussi sur les tirailleurs de Menton. Alors, Menton est connu pour ses palaces, ses hôtels. Au début du XXe siècle, était connu pour ses palaces, ses hôtels sur la Côte d'Azur. Et donc, quand la guerre a éclaté, tous ces hôtels, ces palaces, qui appartenaient pour beaucoup à des Allemands d'ailleurs, ont été réquisitionnés et ont été transformés en hôpitaux. Et on a beaucoup envoyé dans ces hôpitaux des soldats des colonies, parce que les conditions aussi météo, le sud de la France, le climat était mieux pour eux qui venaient de ces pays d'Afrique. Donc on les a surtout envoyés là-bas. Et il y en a quand même beaucoup qui sont morts de leurs blessures ou de maladies qu'ils avaient contractées sur le front. Et donc il y a un cimetière militaire à Menton où il y a des tirailleurs sénégalais notamment qui ont été enterrés. Donc certains ont été inhumés sous leur nom, mais d'autres dans l'anonymat. Et donc au début du centenaire, il y a une association qui s'est rendu compte de ça et qui a essayé de redonner un nom à tous ces soldats. En fait, ils ont fait un mur avec le nom de tous ces tirailleurs. Ils ont fait une statue, en fait, pour pas qu'on oublie la présence de ces tirailleurs à Menton. Donc à chaque fois, c'est vraiment des travaux, des web documentaires qui ont rencontré beaucoup de succès. Donc on sent qu'il y a quand même une demande de cette mémoire. Et je me suis rendu compte aussi qu'à travers cette mémoire africaine, il y avait aussi des clichés qui étaient assez tenaces. Souvent, quand je faisais des papiers sur les tirailleurs, on me disait « mais vous racontez pas la vérité, les tirailleurs, c'était de la chair à canon, on les mettait en première ligne, les soldats africains, l'armée française faisait n'importe quoi avec eux, les traitait moins bien. » Et en étudiant quand même de nombreux ouvrages, je me suis rendu compte que c'était quand même une idée à nuancer, mais qui perdurait jusque maintenant. Donc j'ai fait par exemple cet article avec un historien américain qui s'appelle Richard Fogarty, qui a fait un livre sur les troupes coloniales françaises. Et lui donc il montre que effectivement selon les pratiques de recrutement, certains historiens affirment que les races guerrières étaient plutôt utilisées comme des troupes de choc, étaient donc confrontés à plus de dangers, mais que quand on regarde les chiffres, le taux de mortalité des soldats coloniaux était égal ou même plus bas que les Bretons, les Corses, finalement. Il n'y avait pas de volonté de les mettre plus en avant quand on arrivait à peu près aux mêmes chiffres. Et depuis le début de l'année, on a lancé une émission sur Facebook en direct, un Facebook Live. Donc on est filmé, c'est une émission qui est retransmise juste sur Internet, où on traite d'un thème sur 14-18 à chaque fois. Et l'une des émissions qui a le mieux marché, c'est celle qui concernait bien sûr les tirailleurs sénégalais. Et là aussi, on a reçu énormément de questions, et c'était toujours cette idée de chair à canon qui revenait. Donc on a fait venir un historien, Éric Desroux, pour déconstruire un petit peu ces clichés. Bon, ça nous a valu quelques critiques et pas mal de commentaires assez corrosifs. Mais finalement, comme le résume Richard Fogarty, on ne peut pas simplement réduire les choses à une France raciste ou au contraire une France sans discrimination raciale. C'est vraiment la vérité un peu entre les deux. Il faut toujours un petit peu nuancer. Mais pour beaucoup de personnes d'origine africaine, on garde cette idée en tête sur la chair à canon. Alors maintenant, je vais vous parler de la mémoire française, celle qui vous concerne un peu plus. Donc ça, c'est un monument aux morts que j'ai pris. C'était dans le nord de la France, si je me souviens bien. Donc la mémoire française, j'ai trouvé un peu plus complexe et peut-être un peu moins intense que, par exemple, la mémoire anglo-saxonne dont je vous ai parlé. Si je prends l'exemple des gens qui m'entourent, de mes collègues, de mes amis, finalement, très peu d'entre eux, enfin de ma génération, avaient très peu conscience de... Quand je leur demandais « mais qu'est-ce qu'il a fait ton arrière-grand-père dans la guerre ?» Je sais pas. La plupart ne savaient pas. Donc, au fur et à mesure du centenaire, j'ai quand même senti de plus en plus d'intérêt pour cette question, pour cette histoire. Et je me suis amusée avec beaucoup de mes collègues et amis à retracer le parcours des poilus de leur famille. Et ça a été surtout permis par le site Mémoire des Hommes, je ne sais pas si vous connaissez. Donc le site Mémoire des Hommes, c'est un site gratuit, en accès libre, du ministère de la Défense. Et donc sur ce site, où vous pouvez tous aller, si vous tapez Mémoire des Hommes, vous avez les 1,4 million de fiches de soldats morts pour la France. Ce sont ces fiches qu'on trouve derrière, qui ont été établies pour chaque soldat, qui a été, bon, il y a quelques erreurs, qui ont été tués au cours de la Première Guerre mondiale. Donc, par exemple, j'ai pris un Gall Maurice, un Carbuccia Antoine, un Toussaint Alfred. Donc, si vous tapez votre nom de famille, vous allez avoir tous les soldats qui portent votre nom de famille qui ont été tués au cours de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment pratique. Ça fait un bon point de départ si vous cherchez à faire des recherches sur 14-18. Il y a un autre site qui est intéressant, c'est le Grand Mémorial. Donc, ce site a été mis en place au cours du centenaire par le ministère de la Culture. Et donc ce site a vocation, à la fin du centenaire, à regrouper les fiches de tous les soldats français qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Pas seulement ceux qui ont été tués, qu'on trouve sur le site Mémoire des Hommes, mais là vous pourrez taper le nom de votre arrière-grand-père et ça vous renverra vers sa fiche militaire. Chaque personne qui faisait son service militaire avait une fiche avec son historique militaire et ça vous renverra vers son département de naissance, les archives départementales de là où il a été recruté pour son service militaire. Et donc là, on pourra vraiment retrouver tous les parcours de poilus et pas seulement ceux qui ont été tués. Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes en France qui encore ne savent pas qu'on a ces outils numériques pour pouvoir faire des recherches. Et c'est des outils gratuits et c'est accessible à tous. Et c'est vraiment très simple pour faire des recherches. Et normalement, sur le Grand Mémorial, à la fin du centenaire, il y aura tous les soldats qui devront être intégrés dans cette base de données. Alors, ce qui m'a frappé dans le côté positif pour la mémoire française au cours de ce centenaire, c'est vraiment les initiatives locales. J'ai vraiment eu l'impression que la mémoire est partie du bas, en fait. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites depuis 5 ans. Sur cette photo, par exemple, on peut voir, c'est dans la ville d'Angres, où on avait été avec ma famille là, pour les 100 ans de la mort de mon arrière-grand-oncle. Donc, il y a carrément c'est un plan relief de la bataille de Notre-Dame de Lorette qui a été faite par la mairie. Et autour, il y a une exposition de photos. Alors, c'est une toute petite ville, hein, mais ils ont quand même recréé cet petit espace pour le centenaire. Donc, il y a énormément de villes qui ont fait des choses, des expositions, des livrets avec les poilus de la ville qui sont morts au combat. Là, j'ai reçu énormément de demandes pour le mois de novembre. Il y a aussi beaucoup de villes qui se réveillent, qui se disent « Ouh, c'est la fin du centenaire, faut qu'on fasse aussi quelque chose ». Donc moi, je leur ai dit que j'étais un peu occupée au mois le 11 novembre. Mais là, vous allez voir, suivant d'où vous habitez, il y a beaucoup de villes qui vont faire des choses pour le 11 novembre. Normalement, toutes les cloches de France devraient sonner le 11 novembre à 11h cette année. Il y aura beaucoup de manifestations dans de nombreuses villes. Et cet été, par exemple, j'étais invitée dans un petit village en Corse, le village d'Ucciani, où j'avais jamais été en Corse. Et c'est une association locale qui a organisé toute une journée de conférences sur le thème de la Grande Guerre. Donc moi, j'ai parlé du front d'Orient, parce que c'est une zone que je connais bien, j'aurai l'occasion d'en reparler. Il y a eu aussi une présentation générale sur les poilus corses. Il y avait des personnes aussi qui ont fait tout un livret avec l'histoire de chacun des soldats du village qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Et c'était vraiment un moment de rassemblement, parce qu'ils avaient aussi demandé aux habitants du village de ramener des objets, s'ils avaient encore des objets qui avaient appartenu à des poilus. Donc après, il y a eu un temps il y a eu un petit buffet, les gens se sont mis à parler, à raconter, ah Pépé, je me souviens que Pépé voilà, parlait de ça. Ça crée vraiment un dialogue entre les gens et ça ravivait des souvenirs. Et souvent les gens, ils avaient demandé quelques mois auparavant aux gens de ramener des objets, la collecte n'avait pas été très importante. Et là, quand les gens sont venus, ils se sont rendus compte que n'importe quel petit objet était important. Donc là, ils se sont dit, ah bah la prochaine fois, je pourrais ramener ça. Donc il y a eu un vif intérêt. Pour le centenaire. Les associations aussi font des... Il y a de nombreuses associations qui entretiennent le souvenir de la Première Guerre mondiale. Donc cette photo, en fait, j'ai réalisé un reportage, c'était en 2015, avec l'association du souvenir des Dardanelles et du Front d'Orient. Donc les Dardanelles, c'est en Turquie. Les anglo-saxons connaissent plus le nom de Gallipoli. Pour nous, c'est les Dardanelles, où les Français et les Anglais se sont battus en avril 1915. Et donc, je suis partie avec cette association. Et sur cette photo, on voit Paul et Karine André, qui viennent de l'Aveyron. Donc, c'est un père et une fille. Et donc, là, on est dans le cimetière français de Sédoulbar, donc dans les Dardanelles. Et c'était vraiment un moment, l'un des moments les plus forts du centenaire que j'ai vécu. C'était les premiers de leur famille à rendre visite à Pierre André. Donc c'est la tombe, la croix, où ils sont juste derrière cette croix. Et c'est leur oncle et leur grand-oncle. Et c'est vraiment les premiers de leur famille, 100 ans après, à venir lui rendre visite. Et c'était vraiment bouleversant. Ils pleuraient. Enfin, voilà. Et même avec la distance dans le temps, il y avait une forte charge émotionnelle. Et c'était très, très, très beau parce qu'ils ont déposé un peu de terre de l'Aveyron sur sa tombe et ils ont fait une petite plaque là qu'on voit en bas de la photo avec sa photo. Et c'est marqué à notre oncle pour montrer qu'il ne l'avait pas oublié. Et c'est vraiment très fort de penser que c'est les tout premiers à pouvoir se recueillir sur sa tombe 100 ans après. Alors, ce qui était intéressant aussi au cours de ce centenaire, au niveau de la mémoire, c'est toute une communauté qui s'est créée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, autour de ce centenaire. Là, j'ai mis des petites photos de différents comptes Twitter, de personnes qui ont œuvré pendant près de 5 ans à faire vivre cette mémoire. Donc par exemple, là, on a le comte Frédéric, ça c'est une classe, c'est des lycéens qui ont fait vivre pendant des mois un soldat qui a vraiment existé, Frédéric, et chaque jour ou chaque semaine, il reprenait ses lettres en racontant ce que ce soldat vivait, et on pouvait suivre sa progression jusqu'à son décès, malheureusement. Donc c'est aussi une manière de faire vivre la mémoire, notamment avec les jeunes, en utilisant des moyens modernes. En fait, ça les intéresse aussi parce qu'on utilise les moyens d'aujourd'hui. C'est un peu comme si les soldats avaient eu Facebook à l'époque et qu'ils nous racontaient un petit peu leur guerre. Donc on utilise des moyens modernes pour intéresser les gens et on fait vraiment vivre la mémoire parce qu'on les suit au jour le jour. Et ça a été vraiment... Il y a beaucoup de classes qui ont repris un petit peu cette idée pour faire vivre le centenaire. Donc la mission du centenaire s'est rendu compte. Donc la mission du centenaire, c'était l'organisme gouvernemental qui a fait vivre les commémorations tout au long du centenaire. Et ils se sont d'ailleurs rendu compte qu'il y avait un vif intérêt parce qu'ils ont organisé en 2015 deux journées qui étaient vraiment que consacrées à la Grande Guerre numérique. Donc c'était des rencontres du web autour de 14-18 où tous ces passionnés se sont retrouvés pour parler de ce qu'ils faisaient sur le centenaire. Alors à quoi ça sert de faire ce genre de communauté? Donc, ça sert à plusieurs choses. Par exemple, là, c'est un message que donc j'ai posté sur Twitter au mois d'août dernier. J'étais en voyage à Londres et puis je peux pas m'empêcher de penser au centenaire, donc je suis rentrée chez un antiquaire et j'ai vu ce bracelet de poiluche. Je savais que c'était un bracelet d'un soldat de la Première Guerre mondiale. C'est des bracelets d'identification en fait en cas de décès pour savoir qui est la personne qui a été tuée. Donc il y avait son nom et son numéro de matricule. De son registre militaire sur ce bracelet pour pouvoir identifier la personne. Et donc j'ai regardé ce bracelet et puis j'ai vu qu'en plus c'était marqué Quimper derrière, donc je me suis dit c'est un poilu breton, moi qui suis de Bretagne ça m'intéresse, donc je l'ai acheté. Et donc j'ai mis la petite photo sur Twitter et là tout de suite les gens se sont mis à chercher qui était ce soldat et j'ai eu énormément de réponses, il y a même quelqu'un qui a retrouvé sa photo, on a pu retrouver sa famille, donc il y a vraiment un partage, une vraie communauté et c'est très intéressant, les gens réagissent et aiment partager ces histoires. Il y a eu également un partage d'émotions, notamment quand il y a eu le centenaire de la bataille de Verdun, il y avait énormément de gens bien sûr qui avaient un papy qui s'était battu pendant la bataille de Verdun, donc beaucoup de gens ont partagé des photos, ont raconté l'histoire de leur arrière-grand-père, de leur grand-père pendant la bataille, donc à chaque fois c'était très émouvant. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont envoyé des archives, des documents en fait. Ils me contactaient par les réseaux sociaux. Ils me faisaient partager les documents de famille. Donc c'était pas toujours forcément intéressant, mais pour certains, j'ai pu utiliser ces documents pour en faire des articles. Donc là, c'est une photo qui m'a été envoyée par le fils d'un sergent d'un bataillon de tirailleurs sénégalais. Donc on voit sur cette photo des soldats blancs et des soldats noirs de ce bataillon de tirailleurs sénégalais. Et c'était très touchant parce qu'on voit vraiment la camaraderie entre ces soldats. Ce soldat aussi fait des dessins, des soldats africains. Il y avait un vrai respect entre ces soldats. Et donc, ce fils m'a raconté l'histoire de son père. Et c'est toujours des articles qui marchent très bien parce que les gens aiment bien des histoires très personnelles dans lesquelles ils peuvent s'identifier. Et voilà, ce sont toujours de belles histoires. En fait, je dis souvent qu'il y a 1,4 million de soldats qui ont été tués. Il y a autant d'histoires, malheureusement, d'histoires de la Première Guerre mondiale. L'une des grandes réussites aussi sur les réseaux sociaux de cette mémoire du centenaire de 14-18, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Un jour un poilu. Donc c'est un compte qui a été créé sur Twitter et sur Facebook. Comme je vous le disais, sur Mémoire des hommes, il y a 1,4 million de fiches de soldats morts pour la France. Donc quand elles ont été mises en ligne par le ministère de la Défense, elles ont été mises en ligne, on avait accès à la fiche, mais on n'avait pas retiré de ces fiches les informations, comme le régiment, la date de décès, où était décédé le soldat. Donc c'est un internaute qui s'appelle Jean-Michel Gillot a eu l'idée de demander à d'autres gens de retranscrire chacune de ces chiffres, de ces fiches, en les rentrant dans une base de données, en rentrant ces informations pour pouvoir faire après des statistiques, par exemple pour savoir sur tel ou tel régiment combien de personnes sont décédées, pour savoir, longtemps on a cru que pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, la date la plus meurtrière, c'était le 22 août 1914. En fait, c'était faux. Quand on a fini de retranscrire toutes ces fiches, on s'est rendu compte que c'était la date du 25 septembre 1915 qui avait été la plus meurtrière. Donc le fait de retranscrire ces chiffres, ça permettait d'avoir des données scientifiques sur le centenaire. Mais c'est vrai que 1,4 million de fiches, il fallait quand même embarquer du monde avec lui pour réussir à retranscrire toutes ces fiches. Donc il a fait un petit peu ce qu'il a appelé un défi, il a créé ce compte Un jour un poilu, et il incitait les gens à retranscrire le plus de fiches possible. Donc souvent les gens y retranscrivaient les fiches des soldats de leur village, les fiches des gens de leur famille, et finalement ces fiches ont été retranscrites en un temps record. Il y a quelques mois, c'était les 1,4 million de fiches ont été retranscrites par des milliers de personnes qui ont vraiment participé à cette équipe Un jour un poilu. Et ce qui était intéressant aussi avec cette idée, c'était que donc Jean-Michel Gillot, sur son compte Un jour un poilu, chaque jour, il mettait en avant un soldat qui était mort à cette date, 100 ans auparavant. Donc en fait, c'était un peu comme un hommage virtuel aux soldats de la Première Guerre mondiale. Chaque jour, on rendait hommage à un soldat qui était mort 100 ans avant, à la même date. Comme il le dit lui-même, c'est un peu un mémorial numérique pour tous les soldats français qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Alors maintenant, on arrive à l'histoire dans ma famille. Voilà, j'ai parlé de l'histoire que je connais le mieux, l'histoire de ma famille. Donc ça, c'est quelques photos que j'ai rassemblées de mes recherches sur l'histoire de ma famille pendant ces 5 ans. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le centenaire, je me suis rendu compte que je ne savais absolument rien de l'histoire de ma famille dans la Première Guerre mondiale. Donc moi, ma famille vient, mes deux parents viennent du Morbihan, donc c'est une famille 100% bretonne. Voilà, d'agriculteurs, de paysans bretons. Mon père m'avait dit que mon arrière-grand-père, Élie Trouillard, se souvenait, lui disait qu'il s'était occupé des chevaux pendant la guerre. C'est tout ce qu'on savait. Et finalement, en faisant des recherches, notamment en allant voir les registres militaires, on a appris qu'en fait, il était dans l'artillerie, qu'il a eu la croix de guerre, ce qui était un petit peu différent quand même. Mais c'est tout ce qu'il avait dit à mon père. Moi, je ne l'avais pas connu. Et grâce au site Mémoire des hommes, dont je vous parlais, donc on a tapé les noms des gens, on a tapé les noms de ma mère, le nom de mon père, pour savoir si on avait des gens de notre famille qui étaient décédés au cours de la Première Guerre mondiale, parce qu'on savait absolument rien. Et donc j'ai trouvé notamment que deux de mes arrière-grands-oncles sont morts au cours de la Première Guerre mondiale. Et ça, on ne le savait pas. Donc à droite, c'est Joseph Trouillard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, qu'on avait été 100 ans après avec mes parents dans l'Artois. Donc lui, il est mort le 25 septembre 1915, cette fameuse journée la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Et du côté de ma mère, j'ai aussi perdu un autre arrière-grand-oncle, Gondet Joseph, qui lui aussi était du Morbihan et qui a été tué le 13 novembre 1916 sur le front d'Orient en Macédoine. Donc je savais même pas qu'il y avait eu des combats Macédoine, et j'étais loin d'imaginer que des soldats bretons aient été morts de l'autre côté de l'Europe. Donc ça a été toute une surprise. Donc en fait, tout au long du centenaire, donc j'ai réalisé des articles sur le centenaire, et j'ai aussi réalisé des articles où je racontais aux gens comment je procédais moi-même pour faire des recherches sur ma famille. En fait, je racontais comment j'avançais dans mes recherches sur ma famille. Ce sont aussi des articles qui ont bien marché parce que c'était très personnalisé, et en même temps, ça donnait des outils aux gens pour faire leurs propres recherches. Donc, le premier article que j'avais fait, c'est donc sur Joseph Trouillard. C'était en novembre 2014, et c'était à l'occasion de l'inauguration de l'Anneau de la mémoire. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'une des belles réalisations de ce centenaire. Donc, c'est dans la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette, hein, qui est l'une des plus grandes nécropoles militaires, qui se trouve dans l'Artois. Et donc, ils ont fait un anneau avec des listes, les noms de tous les soldats qui sont morts dans le Nord-Pas-de-Calais durant la Première Guerre mondiale. Et c'est une liste qui regroupe les soldats français, britanniques, mais aussi allemands, en fait. Ils ont mis tout le monde sur ce mémorial. Et donc, il y a le nom de mon arrière-grand-oncle, Trouillard Joseph François Marie. Et c'est un peu le seul lieu où on peut se recueillir. Comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de tombe connue. Donc, j'ai fait un article pour raconter. Du coup, je suis allée chercher un petit peu comment il était mort, ce qui s'était passé, comment il s'était retrouvé à combattre dans cette zone. En 2015, j'ai fait des recherches un peu plus fastidieuses là, pour savoir ce qui est arrivé à Joseph Gondet, donc qui est mort sur le front d'Orient. Et ça a été un peu une coïncidence. Donc quand j'ai appris qu'il était mort en Macédoine, quelques mois après, j'ai été invitée par le ministre des anciens combattants de l'époque, qui s'appelait Jean-Marc Todeschini, à faire un voyage sur le front d'Orient en Macédoine. Je me suis dit, c'est quand même une sacrée coïncidence, ça c'est l'occasion, je ne peux pas la louper. Donc je suis partie en Macédoine. Et j'ai fait plusieurs voyages depuis. Donc j'ai notamment été dans la ville, là c'est le village de Slivica, où il a été tué. Donc j'ai refait plusieurs voyages depuis. L'idée c'était vraiment de me rendre compte au plus près de ce qu'il avait vécu en Macédoine, là où il était mort. De voir les conditions de combat des soldats. Et finalement, j'ai essayé aussi de retrouver sa tombe. Ça a été un peu compliqué. Quand je cherchais, je trouvais rien. Et finalement, donc il y a un cimetière en Macédoine. C'est le cimetière de Bitola. Bitola, c'est une des grandes villes en Macédoine, et le plus grand cimetière français se trouve à Bitola. Et en faisant des recherches dans le registre du cimetière, j'ai trouvé qu'il y avait une tombe qui s'appelait Gondère. Donc je me suis dit, ça rapproche de Gondet, et surtout qu'il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de régiment. Et Joseph a été tué pas très loin de là. Et il faut savoir que dans ce cimetière, il y a à peu près 30% d'erreurs au niveau des noms. Hein. Il y avait des mauvaises retranscriptions sur le champ de bataille. Souvent on faisait des listes, c'était compliqué. Après, les soldats étaient enterrés temporairement dans des cimetières temporaires. Après, on faisait des plus grands cimetières. Donc il y avait pas mal d'erreurs. Donc, est-ce que c'est la tombe de mon arrière-grand-oncle ? On ne sait pas. Il faudrait faire un test ADN pour que ce soit plus poussé. Mais pour l'instant, ça reste un mystère parce qu'on ne sait rien sur ce Gondère. Et il n'y a aucun soldat qui s'appelle Gondère qui a une fiche mort pour la France sur le site Mémoire des Hommes non plus. Donc ça correspond à personne. J'ai décidé de raconter l'histoire de Joseph aussi sur les réseaux sociaux. Donc pendant un an, à partir de la date où il a débarqué en Grèce, à Salonique, avec son régiment, le 2e bis régiment de Zouaves, jusqu'à son décès, en novembre 1916, j'ai raconté son parcours, j'ai même fait une petite carte, on pouvait suivre le parcours de son régiment. Donc l'idée, c'était de le faire revivre un peu numériquement. J'avais pas de documents dans ma famille, mais j'ai trouvé des archives sur Internet, des photos sur Internet. Donc les gens ont pu suivre un petit peu mon parcours et mes recherches sur Joseph. Et ce qui a été aussi émouvant, c'est que donc avec mes parents, on avait été en 2015, 100 ans après, pour la mort de Joseph Trouillard. Et donc en 2016, on est allé 100 ans après pour la mort de Joseph Condet en Macédoine. Et donc là, c'est mes parents et moi et l'ambassadeur. Et donc, on a fait symboliquement une petite cérémonie devant sa tombe, qui est peut-être pas la sienne, mais on a fait comme si c'était lui. Et pour la petite histoire, avant de partir, ma mère m'avait dit « Bon, je sais pas si je vais être vraiment émue, c'était il y a 100 ans, moi j'avais jamais entendu parler de ce grand-oncle, voilà. » Enfin, elle était contente de faire un voyage, mais bon, elle pensait pas être spécialement émue. Et quand on a fait la cérémonie, ils ont fait la sonnerie aux morts, et je me suis retournée, elle était en larmes, vraiment prise par l'émotion. Et je pense que là, elle a, elle a réalisé qu'on était les premiers de notre famille à venir là. Moi, c'était des paysans bretons. Ils n'avaient pas l'occasion. Je ne sais même pas s'ils savaient où c'était, la Macédoine. Voilà, leur fils était mort là-bas. Ils ne l'ont jamais revu. C'était un peu vraiment la double peine. Et nous, 100 ans après, voilà, la boucle était bouclée. On allait se recueillir pour eux. Finalement, ce n'est pas pour nous, mais pour mes arrière-arrière-grands-parents qui avaient perdu leur fils, pour mon arrière-grand-père qui avait perdu son frère. Voilà, on refermait peut-être quelque chose et c'était important. Alors avec un autre de mes arrière-grand-oncles, j'étais un peu plus loin finalement en le réhabilitant. J'ai découvert que le frère de mon arrière-grand-père, de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Théophile Réminac, était bien sur le monument aux morts de son village. Donc j'ai cherché sa fiche sur Mémoire des Hommes. Et là, pas de fiche. Je me suis dit, c'est bizarre, il est sur le monument aux morts, il n'y a pas sa fiche. Et en fait, en allant voir son parcours militaire, sa fiche militaire, j'ai vu qu'il était mort de tuberculose qu'il avait contracté avec son régiment pendant la Première Guerre mondiale, mais il l'avait renvoyé chez lui, et il était mort dans son village de tuberculose. Mais j'ai appris que 100 ans après, on pouvait quand même demander à ce qu'il ait la mention « mort pour la France ». Donc dans son village, on l'avait considéré mort pour la France, donc on l'avait mis sur le monument, sûrement pour faire plaisir à ma famille, mais officiellement, il n'avait pas la mention « mort pour la France ». Donc j'ai fait un dossier à l'Office national des anciens combattants en me disant « bon, je ne sais pas si ça va passer ». Voilà. Et un mois après, j'avais la validation, donc il avait la mention « mort pour la France ». Donc ça a été mis sur son acte de décès, « mort pour la France ». Voilà. Et maintenant, il a sa petite fiche dans Mémoire des Hommes, parce que finalement, s'il n'avait pas été envoyé à la guerre, il n'aurait peut-être pas attrapé cette tuberculose non plus. Et c'était une manière un peu de réparer les choses, même 100 ans après. Ce que je regrette, moi, pour le cas de ma famille, c'est qu'on n'a vraiment trouvé aucun document, quoi. Donc là, j'ai quand même trois arrière-grands-oncles qui ont participé au conflit, et on n'avait rien. On n'avait rien, pas de photos, pas d'archives, pas de lettres. J'ai deux de mes arrière-grands-pères aussi qui ont été à la guerre, rien, aucune photo. Finalement, j'ai eu un peu de chance avec mon article sur Joseph Trouillard. Il y a un cousin éloigné de mon grand-père qui m'a contacté. On avait perdu un peu le contact à cette partie de la famille, donc il a vu mon article, et c'est lui qui m'a envoyé la photo de Joseph Trouillard. Parce que c'est cette partie de la famille qui avait récupéré finalement les photos, les photos familiales. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pu mettre un visage sur Joseph. Il m'a aussi envoyé des photos de mon arrière-grand-père, Élie Trouillard, donc qui était le frère de Joseph, et on n'avait pas de photos de lui jeune, et là on le voit, c'est ce fameux arrière-grand-père qui s'occupait que des chevaux, et en fait il était dans l'artillerie, là on le voit avec son uniforme d'artilleur, et donc il a bien participé à la Première Guerre mondiale, lui aussi, et donc on a eu quelques photos. Alors pour Joseph Gondet aussi, je tenais absolument à retrouver sa photo, et donc j'ai contacté tous les cousins éloignés de ma famille en me disant « bon, c'est peut-être eux qui ont récupéré les photos, on va bien finir par trouver sa photo ». Et il y a une cousine éloignée qui m'envoie un mail un jour et qui me dit « j'ai retrouvé la photo de Joseph Gondet ». Donc elle m'envoie cette photo. Et donc effectivement, derrière, c'est marqué « Joseph Gondet, mort à la guerre, 14-18 ». Voilà. Je regarde la photo, je me dis « mais donc Joseph était censé avoir 22 ans ». Bon, je veux bien que souvent les gens à l'époque paraissaient plus vieux, mais là quand même. Et je regarde aussi l'uniforme, c'est marqué 21, ça ne correspond pas à son régiment, qui était le 2e bis de Zouave, et puis l'uniforme, bref, rien ne correspondait. Et en fait, en faisant des recoupements, j'ai vu qu'avec un autre cousin, qui s'appelait aussi Joseph Gondet, qui faisait partie du 21e régiment d'infanterie territoriale, et qui était plus âgé. Et donc, c'est sûrement plutôt lui que Joseph, comme quoi, finalement, quelqu'un a inscrit derrière cette photo, quelqu'un de la famille a inscrit derrière cette photo, Joseph Gondet mort à la guerre, alors que c'est pas lui. Donc il faut aussi se méfier parfois de la mémoire familiale. Il faut bien vérifier. Donc au final, même si j'ai pas eu toutes les photos, tous les documents, je suis quand même contente, c'est d'avoir sorti un petit peu tous ces poilus de ma famille, parce que cette histoire, en 100 ans, c'était complètement effacée. On a complètement perdu la mémoire de ces soldats de ma famille, et donc ça a été vraiment de les sortir quelque part de l'ombre, et je sais pas s'il n'y avait pas eu ce centenaire, je suis pas sûre que j'aurais fait cette démarche. En fait, ça a été vraiment l'occasion, et surtout grâce aux outils modernes qu'on a à disposition, beaucoup d'archives sont numérisées, sont accessibles sur internet, donc on peut faire les recherches depuis chez soi, donc c'est beaucoup plus facile. Et ce qui a été pour moi incroyable au cours de ce centenaire, c'est aussi toutes les rencontres que j'ai pu faire. Hein. Souvent, on me dit « oh là là, ça fait 5 ans que tu travailles sur la Première Guerre mondiale, t'en as pas marre de parler des morts, c'est glauque ». voilà, ça doit être triste tout le temps. Je dis, ben non, en fait, en travaillant sur les morts, j'ai rencontré aussi beaucoup de vivants. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises au cours de mes voyages. Certains se reconnaîtront sur les photos. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens de tous les pays. À chaque fois, ça a été vraiment des rencontres très émouvantes parce que souvent, les gens portaient l'histoire de leur famille et avaient à cœur de la partager. Donc c'est vraiment 5 années qui ont été très riches en ce qui me concerne et qui m'ont beaucoup enrichi. Et donc... pour moi, ça a été vraiment une belle expérience que de vivre ce centenaire. C'est vrai que j'ai un petit pincement au cœur à l'idée que ça se termine bientôt. Voilà. Merci pour votre écoute.